VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Lydia Ouagadougou, 13h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Cour pénale internationale de La Haye, la parole est à la défense ce jeudi dans le procès de l'ex-chef de guerre congolais Boston Taganda, accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Son avocat, le Canadien Stéphane Bourgon, a déclaré au tribunal que tout reste à prouver concernant les 18 chefs d'inculpation formulés contre Ntaganda, qui a plaidé non coupable à l'ouverture du procès hier. L'ex-chef de guerre est le premier accusé en droit pénal international qui doit répondre de viol et esclavage sexuel commis sur ses propres troupes. On s'attend à ce qu'il prenne la parole aujourd'hui pour se défendre. En RDC, le film « L'homme qui répare les femmes » du réalisateur belge Thierry Michel interdit de diffusion. Les autorités congolaises considèrent ce film injurieux à l'endroit des forces armées de leur pays, a déclaré à VOA Afrique Lambert Mende, porte-parole du gouvernement. Co-réalisé avec la journaliste du Monde Colette Breckman, le film, qui parle du docteur Denis Mukwege, médecin plusieurs fois primé pour ses chirurgies pour sauver les victimes d'atrocités sexuelles, reprend entre autres des témoignages de femmes violées. Pour plus de détails, Eddie Sango a joint le co-auteur du film, Thierry Michel.
On est donc très surpris tout d'un coup de ce revirement qui fait que ce film attendu et programmé à Kinshasa, mais aussi au Kivu et dans la province orientale, ne pourra pas être présenté publiquement. Je n'ai pas eu Lambert Mende, mais j'ai lu ses interventions dans la presse et je sais ce qu'il a dit à Colette Brackman. Pour lui, ce film calomniait l'armée congolaise et donnait une mauvaise image de cette armée parce que des témoins, j'imagine, dans le film, disent avoir été violés par des militaires.
J'ai eu le ministre avant vous, il m'a confirmé ce que vous dites, mais il a refusé de parler dans une interview. Donc il dit que ce film constitue une calomnie de l'armée congolaise, en fait.
Je m'en étonne parce que deux choses. Ce film, d'abord, a été fait de manière extrêmement objective, journalistique et professionnelle, avec Colette Brackman, en cherchant des témoignages parfaitement fiables, des témoignages qui avaient déjà été, pour la plupart, répertoriés par les Nations Unies, qui sont repris d'ailleurs dans le fameux rapport mapping fait par les experts des Nations Unies, qui a répertorié 617 cas d'incidents violents avec des possibilités de graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui ont été commises en RDC. Et nous avons donné la parole au docteur Mukwege.
Vous parlez justement de docteur Mukwege, mais juste après avoir reçu les prix Sakharov, on a vu dans la presse internationale ou même dans la presse congolaise qu'il était présenté comme un éventuel candidat à la présidentielle. Est-ce que vous ne pensez pas que ce soit pour cette raison que les autorités congolaises aient bloqué votre film?
Je suis un petit peu surpris et même un peu choqué qu'on interdise un film qui rend hommage à cet homme, célébré unanimement par la communauté internationale pour son dévouement, son courage, son abnégation dans sa mission de réparer les femmes victimes de viol. Il est un des témoins privilégiés, parfois un porte-parole. Maintenant, je peux vous dire que le docteur n'a jamais dit qu'il était candidat. Ça a été dit à son insu et je crains que ça ait été dit de manière malveillante pour lui nuire, sachant qu'à partir du moment où la rumeur circulait qu'il pouvait être un candidat et donc un rival éventuel du président actuel, c'était une manière de le mettre en danger. Lui ne s'est jamais porté candidat à aucune fonction politique jusqu'ici. Mais je confirme bien, c'est son droit, comme le droit de tout citoyen congolais.
Thierry Michel, co-réalisateur du film « L'homme qui répare les femmes », joint à Bruxelles par Eddie Isango. La guerre contre Boko Haram maintenant, allégresse à Fotokol au Cameroun hier soir à l'arrivée des militaires nigérians au pont frontalier d'El Beid, séparant la ville nigériane de Gamboru de Fotokol. Les troupes nigérianes ont chassé les islamistes de Gamboru cette semaine et elles sont venues saluer les militaires camerounais et tchadiens stationnés à Fotokol pour contrer Boko Haram. La reprise de Gamboru devrait faciliter le commerce entre Maïdougouri, chef-lieu de l'État nigérian de Borno, et Kousséri au Cameroun ainsi que N'Djamena au Tchad.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Mali, naufrage sur le fleuve Niger mercredi d'une pinasse, une grande pirogue reliant Niafunke dans la région de Tombouctou à la ville de Mopti. Bilan provisoire selon la protection civile régionale contactée par l'AFP, 19 morts, 4 disparus et 70 rescapés. Les secours et les recherches continuent car le nombre des passagers qui avaient embarqué à bord de la pinasse n'est pas connu, souligne Omar Sanke, un responsable de la protection civile. On ignore les causes du naufrage. Entre nos Mopti et Tombouctou, distantes de plus de 720 km, le transport des personnes et des marchandises est assuré à 70% par les PINAS, selon les autorités maliennes. Par ailleurs, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta termine aujourd'hui sa visite au Niger. Ses consultations avec son homologue nigérien Mahamadou Issoufou ont porté entre autres sur les tensions dans le nord du Mali dues à l'occupation de la localité d'Anéfis par le Gatia, milice favorable au gouvernement malien. Notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa, nous en dit plus.
Pour le président malien, il n'y a plus de cas en effet puisque le groupe de miliciens a été sommé de quitter la localité et cela sera Ibrahim Boubacar Keïta.
Un accord de paix n'a pas que des amis, n'est pas d'application immédiate efficace. Il y a forcément des perturbations, il y a des petits sursauts et cela ne nous enlève pas notre sérénité. Ceux qui ont indûment occupé en effet après la signature de l'accord de paix ont été priés d'évacuer en effet sans condition et cela sera.
Pour le président nigérien, le cas d'Anéfis est une belle occasion pour mettre en œuvre l'accord de paix d'Alger, Issoufou Mahamadou.
La solution au problème d'Anéfis se trouve dans la mise en œuvre rapide de cet accord de paix.
Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Niger toujours, le Bureau international du travail, BIT, s'appuie sur les médias pour lutter dans le pays contre une espèce d'esclavage traditionnel. Une pratique qui s'exerce dans le contexte de la religion et génère la tragédie dans les familles. Pour des précisions, Eric Manirakiza a joint en France Athanase Karayenga, un consultant du BIT impliqué dans ce projet.
Il existe une pratique des hommes âgés surtout, qui ont atteint le quota des 4 femmes autorisées par le Coran, mais qui en plus épousent ce qu'on appelle la wahaya. C'est la 5e épouse qui sort du quota permis par le Coran de 4 femmes. Et là, la situation devient extrêmement dramatique parce qu'il faut nécessairement que cette 5e épouse soit d'ascendance esclave depuis des années, presque des siècles. Et pire que ça, la 5e épouse, généralement, c'est des gamines de 10, 11, 12 ans qui sont capturées à l'insu de leur famille et puis ces enfants grandissent sans jamais plus revoir leur famille d'origine, elles deviennent l'esclave de toutes les 4 femmes légales et peuvent donner naissance à des enfants. Et ces enfants sont à leur tour esclaves. Et ainsi la chaîne se reproduit. Les esclaves reproduisent les esclaves.
Vous formez donc des journalistes pour informer correctement dans le but de juguler cette forme d'esclavage. Y a-t-il des résultats jusque-là ?
C'est une tradition qui existe depuis des siècles. Et c'est une tradition qui est adossée sur une fausse interprétation du Coran parce que dans la communauté des musulmans, tout croyant doit être libre. Et la plupart de ces enfants qui sont capturés, qui deviennent des femmes esclaves, elles sont musulmanes. Et donc, il est absurde de maintenir en esclavage une autre musulmane. Alors, le premier résultat qu'on perçoit aujourd'hui, c'est d'abord la lutte de la société civile nigérienne. Il y a des chefs traditionnels, il y a des chefs religieux, il y a des associations. Le Niger est un des pays les plus avancés en matière de lutte contre l'esclavage traditionnel. Ce que nous faisons avec les journalistes, c'est de faire la promotion de tous ces instruments pour que l'opinion publique se rende compte que le prétexte de la religion ne vaut pas. Le prétexte d'une tradition qui est acceptée par la société ne vaut pas. L'esclavage, c'est un crime.
Athanase Karayenga, un consultant du Bureau international du travail. Et puis en Guinée, la Cour constitutionnelle devrait confirmer ce jeudi la candidature de 8 leaders politiques au présidentiel du 11 octobre, notamment le président sortant Alpha Condé et le chef de file de l'opposition Sélou d'Alain Diallo. Motif, aucune objection contre jusqu'à présent. Mohamed Camara, analyste politique à Conakry.
Vu qu'aucune plainte n'a été déposée jusqu'à ce stade, la probabilité est très forte que les 8 candidatures soient maintenues à date. Et après maintenant, le décret présidentiel doit intervenir pour convoquer le corps électoral 38 jours avant le jour J, contrairement à l'erreur qui a été faite pour convoquer le corps électoral alors qu'on était en dépassement de 38 jours déjà. Donc après cela, vers le 10 septembre, le président de la République devrait intervenir encore en prenant cette fois-ci un autre décret pour ouvrir officiellement la campagne au titre de ces élections présidentielles.
Mohamed Camara, analyste politique à Conakry. C'est tout, merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com et également sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.